Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Vous connaissez peut-être déjà sa douce voix, elle est votre hôte sur le podcast Parole de Yogi. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laura Cardozo sur YogiBiz Podcast. Prof de yoga yin et hatha, Laura a rencontré le yoga il y a plus de 8 ans à la fac et alors qu'elle se destinait à une carrière de professeur dans l'histoire de l'art, les attentats de Charlie Hebdo marquent à cette époque son parcours de vie. Alors qu'elle prend conscience qu'on peut perdre la vie à tout moment, elle trouve la force et le courage de prendre une autre voie que celle dans laquelle elle s'était engagée et découvrira plus tard que c'est finalement le yoga qui l'a menée à cheminer vers ce parcours de vie plus au service des autres qu'à la course à la performance. Sur Parole de Yogi, elle propose à ses invités de raconter leurs expériences autour du yoga et dans d'autres épisodes, en solo, elle nous livre des réflexions plus personnelles et intimistes. Aujourd'hui, Laura a décidé de partager son expérience, notamment auprès des professeurs de yoga qui débutent, tout simplement en leur offrant ce qu'elle aurait aimé avoir, un guide pour lancer son activité de yoga en toute confiance. À travers ce programme de plus de 5 heures d'audio, elle répond aux questions qui nous préoccupent le plus lorsqu'on débute l'enseignement du yoga. Ce programme est sa manière à elle de nous accompagner sur le chemin de l'enseignement. Dans cet épisode, tout en générosité et authenticité, Laura nous dévoile déjà, en avant-première, quelques pistes de réflexion, de nos interrogations les plus pragmatiques aux tribulations d'un yogipreneur, avec des conseils et des partages empreints de sagesse, d'optimisme et de bon sens. Tout de suite, je laisse donc place à ma conversation passionnante avec Laura Cardozo. Bonjour Laura, bienvenue sur YogiBiz Podcast, je suis ravie de t'accueillir.
Merci de m'accueillir et de me laisser la parole aujourd'hui.
Avec grand plaisir. Alors écoute, moi je vois plutôt notre conversation comme un mentoring pour nos futurs et jeunes professeurs de yoga qui vont pouvoir bénéficier aujourd'hui de ton expérience. Et avant de parler de tout ça, je vais commencer par une question hyper pragmatique, pratico-pratique, qu'on me pose tout le temps, et peut-être qu'à toi aussi d'ailleurs, sur quel statut juridique choisir. La grande question qui revient, c'est est-ce que je dois me déclarer en micro-entreprise ou créer une association ? Alors Laura, est-ce que tu peux tout de suite répondre à cette question qui nous tient tous en haleine ?
Alors, est-ce que je suis la meilleure personne pour répondre à ça ? Je ne suis pas sûre parce que voilà, moi, clairement, je ne me suis jamais posé la question. C'était auto-entreprise directement. J'ai jamais vu les bénéfices de me mettre en association, en fait. Et du coup, j'avoue que je n'ai pas du tout creusé la question. Mais clairement, auto-entreprise, aujourd'hui, ce statut me permet une liberté. Je n'ai pas besoin d'impliquer des tiers personnes pour faire les statuts de mon association. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus... En règle générale, le statut auto-entrepreneur reste léger. C'est un statut qui fait peur. Mais ça reste un statut léger au niveau de l'administratif. Il y a la possibilité de recevoir des aides financières aussi. Dès qu'on se lance, il y a l'ACRE qui peut rentrer en jeu. Et puis juste derrière, ce que moi, je bénéficie de cette aide encore dans mon activité, c'est la prime d'activité, qui est une aide qui est là depuis assez peu de temps au final, mais qui, je crois, avait été lancée sous François Hollande et qui aide les auto-entrepreneurs, quel que soit leur âge. À la base, la prime d'activité par la CAF, c'est pour les jeunes qui se lancent dans l'emploi. La prime d'activité, elle est aussi pour les auto-entrepreneurs, quel que soit leur âge, en dessous d'un certain chiffre d'affaires trimestriel. Je crois que si tu fais moins de 8300 euros de chiffre d'affaires par trimestre, tu as le droit à cette aide, qui n'est pas négligeable.
Super, très bien. Donc, effectivement, micro-entreprise, ça serait probablement le statut le plus adapté aujourd'hui pour se lancer. Et d'ailleurs, c'est un statut qui fonctionne très, très bien. Il y en a de plus en plus. Donc, voilà, on espère que ce premier point aura répondu aux grandes attentes de nos jeunes professeurs de yoga. Et maintenant, on va pouvoir bénéficier un peu plus
de ton expérience. Et ben, j'aimerais savoir justement quelles sont selon toi les premières étapes pour se lancer en tant que professeur de yoga.
Alors, la première étape pour se lancer en tant que prof de yoga, pour moi, c'est déjà de, une fois qu'on est sorti de sa formation, essayer de savoir où l'on va. Quelle est mon intention prof? Qu'est-ce que je veux donner? À qui je veux le donner? C'est même pas définir une cible, etc. C'est même pas en ces termes-là que j'exprime les choses. C'est juste moi, en tant que prof, mon rôle, ce que je veux apporter au monde, qu'est-ce que c'est? Voilà. Et si on ne répond pas à ces questions-là, on n'est plus, disons, on va dire, aligné sur son axe et on va se mettre à mettre en place des actions pour plaire à tout le monde, pour... en fait, on va aller dans tous les sens et on va finir par se perdre. On va copier ce que fait le voisin sans l'adapter à soi. Et voilà, pour moi... Avant toute chose, avant de commencer à mettre en place un site internet, à acheter à quoi que ce soit, à acheter du matériel, etc., il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on se destine à travailler pour les entreprises? Est-ce qu'on se destine à travailler dans des studios? Est-ce qu'on veut faire un travail en ligne? Est-ce qu'on a envie de se montrer sur les réseaux sociaux? Définir tout un tas de choses qui sont ensuite des choix de cœur, voilà, qui ne sont même pas discutables par qui que ce soit. C'est mon envie profonde, c'est de faire ça. Et du coup, je vais mettre en place les actions qui m'aident à toucher les personnes que je dois aider.
Ok, donc est-ce qu'on pourrait dire, finalement, dans un premier temps, définir sa mission, quand tu parlais de choses un petit peu plus, de qui on veut aider, pourquoi on le fait, quelle est notre intention. Donc, c'est d'abord, effectivement, sa mission et sa vision de l'enseignement, en fait. Et puis, ensuite, effectivement, passer sur des choses un petit peu plus palpables, comme tu le disais, donc en ligne, en studio, auprès des entreprises. Donc là, c'est commencer déjà à définir ses objectifs et à qui on veut transmettre son yoga, en fait.
C'est ça. C'est d'abord soi et après, on voit pour les autres. Mais d'abord, on ressent ce qui est juste pour soi.
Oui, c'est très juste. Pour avoir justement le bon niveau de vibration aussi. Sinon, le risque, c'est peut-être de se mettre de côté et puis de ne pas finalement réussir à s'épanouir alors qu'on choisit quand même aussi ce métier pour ça, je pense.
C'est clair. C'est un des trucs qui nous arrive de toute façon à tous, c'est de vouloir tellement bien faire qu'on s'oublie et qu'on fait tout pour les autres. Mmh. C'est les métiers de service, c'est comme ça.
C'est un très bon conseil déjà pour commencer, effectivement. Et alors toi, justement, dans ton parcours, est-ce que tu as commencé en te posant ces bonnes questions ou justement, est-ce que toi, tu n'as peut-être, peut-être pas... Enfin, c'est aujourd'hui pour ça, d'ailleurs, que tu vas pouvoir aider de jeunes profs, de futurs profs pour leur apporter, en fait, ton expérience, puisque même si se tromper des fois ou faire des erreurs, c'est bien aussi, on en ressort toujours plus fort et on apprend. Mais finalement, toi, dans ton parcours, quelle a été peut-être ta plus grosse erreur quand tu as commencé à enseigner et en tout cas, du coup, sur quoi tu pourrais dire aux jeunes professeurs d'apporter en fait un petit point de vigilance et d'être, de faire bien attention à ça?
Alors, je pense que dès le départ, tous les bons conseils que je viens de te donner, je ne les ai pas du tout appliqués. donc voilà, en fait, dès le départ, je me suis dit, je vais faire comme tout le monde, je vais investir. Et j'ai investi pour créer un logo, j'ai investi pour mon site internet, j'ai investi pour des flyers, j'ai investi pour, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, des cartes de visite. Et le résultat, je pense qu'il y en avait pour entre 700 € et 1 000 €, hein, de communication. Et bah, le résultat, c'était peut-être un client, un élève seulement. Et cet élève, je l'ai trouvé non pas parce que j'avais mis en place toute cette armada de communication et de support pour moi me cacher derrière quelque chose, en fait. Je l'ai trouvé parce que quelqu'un a mis sur ses réseaux sociaux, un ami, bah, écoutez, voilà, Laura Cardozo se lance dans le yoga. Si vous voulez bénéficier d'un cours, n'hésitez pas à la contacter. Elle est compétente, etc. Donc, en fait, j'ai réussi par le bouche à oreille et pas du tout par tout le reste. Donc, ça, voilà, c'était ma, entre guillemets, ma plus grosse erreur, mais ça m'a appris que justement, mettre en place des actions de partout, vouloir copier, vouloir absolument tout ça n'était pas forcément le plus utile au départ. Surtout si, quand on met en place ça, c'est pour se cacher. Et c'est exactement ce que je faisais.
Oui, c'est ce que j'ai relevé dans ce que tu nous as dit, effectivement, me cacher derrière quelque chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on cherche à se cacher ? Qu'est-ce qui se passe ? À ton avis, donc, effectivement, quand on démarre, est-ce que c'est un phénomène que tu vois souvent chez les jeunes professeurs ? Et comment, du coup, on peut faire face à ça ? Ou en tout cas, peut-être oser exister en tant que prof de yoga, oser s'accomplir, affirmer sa légitimité ? Comment on arrive, du coup, à passer, pour ne pas faire cette erreur-là, justement, et ne pas se cacher derrière quelque chose, comment on doit réagir, selon toi ?
Alors, ce mouvement naturel, j'insiste, hein, c'est vraiment naturel de vouloir se cacher au départ parce qu'on se sent pas légitime. On se dit, j'ai fait tant de formations, mais je suis pas prête. J'ai à peine donné quelques cours grâce à ma formation, comment je vais faire pour sauter dans le grand bain. Cette peur à la fois de légitimité, et pour certains ça va encore plus loin, c'est le syndrome de l'imposteur, ça nous empêche, ça nous bloque. Et en fait, il va falloir au départ, et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, travailler sur soi. On a tous les outils pour le faire. On est prof de yoga. On a les outils pour bouger le corps, pour respirer. On a forcément des petites bases de méditation, même si peut-être on ne le pratique pas à fond. Et donc, avec tout ça, on va pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau de notre mental, s'en détacher, comprendre que cette voix intérieure qui nous parle et qui nous dit des petites choses pas cool, c'est notre ego. C'est notre ego qui nous dit, là, tu vas dans la nouveauté et ça fait peur. Et la nouveauté, moi, en tant qu'ego, je ne sais pas comment réagir. Donc, je veux t'en préserver à tout prix. Alors qu'il va falloir en soi laisser s'élever une autre voie qui est la voie de la confiance, une voie qu'on va travailler tous les jours et qui va nous permettre de répondre à l'ego, attends, toi tu sais pas où tu vas, mais moi je sais où je vais. Je sais qu'il y a des gens que je veux aider. Je sais que je suis capable parce que j'ai été formée. Ça n'est pas le cas des élèves en face. Il faut se souvenir que les élèves en face de nous ne savent pas... ce qu'est être professeur de yoga. Ils ne savent pas ce qu'est faire un cours de yoga. Ils ne savent pas tout un tas de choses que nous, on a appris. Et c'est ça qu'on est censé leur apporter, justement. Donc voilà, valoriser ce savoir, valoriser ce que l'on est aussi en tant que personne et cette unicité qu'on va apporter dans nos cours. Et voilà, ça, j'essaye d'en parler énormément dans le programme, justement, pour les profs qui se lancent. J'essaye d'insister là-dessus parce que quoi qu'on fasse... Quand on va vers la nouveauté, quel que soit le métier, on va se retrouver avec cette peur de ne pas être légitime. Je donne l'exemple dans le programme de l'interne en médecine qui a fait 5 ans d'études, qui est préparée et qui arrive à l'hôpital et qui tout d'un coup va paniquer. C'est exactement la même chose. Pourtant, il a 5 ans d'études derrière lui. Ça va être la même chose pour quelqu'un qui a fait 1 mois de formation intensive, qui a fait 1 an... de formation sur long terme, ou même quelqu'un qui a fait 5 ans de formation, on va tous, au départ, se retrouver avec cette peur-là.
Et alors, justement, selon toi, pour réussir aussi à prendre confiance en soi et peut-être à calmer intérieurement cette peur, est-ce qu'il faut se lancer tout de suite ? Est-ce qu'il est bon, justement, d'oser ? Alors, peut-être dans un cercle proche. Ou alors est-ce que non, au contraire, il faut tout de suite aller donner des cours en studio. Quel est selon pour au-delà de travailler au quotidien en fait sur la confiance en soi avec les outils effectivement qu'on a en plus en tant que prof de yoga plus que n'importe qui pour nous aider à travailler ça. Mais est-ce que justement il faut passer à l'enseignement tout de suite et ne pas attendre, ne pas écouter justement cette petite voix trop présente et quels sont finalement aussi les risques quand on a peur et qu'on se lance est-ce que par exemple de pratiquer des prix trop bas ou voire même de donner son yoga, est-ce que ça c'est des choses sur lesquelles tu peux nous orienter?
Alors je dirais que il est important d'avoir du coup cette alliance des deux, c'est-à-dire travailler sa confiance Et quand on se sent en confiance, justement, d'oser et d'y aller, bien sûr que ce sera... La confiance, c'est pas quelque chose qui est linéaire, c'est pas quelque chose qui est... je veux dire, qui est un acquis pour toujours. Donc, forcément, vous allez avoir des hauts et des bas. C'est le métier aussi de prof, mais c'est aussi le métier d'auto-entrepreneur, quelque part. Et du coup, même s'il y a des bas, comprendre qu'il faut se lancer. Et quand je dis se lancer, je dis assez peu se lancer avec les proches. Pourquoi ? Parce que les proches, certes, c'est rassurant, mais très rapidement, ça devient enfermant parce que les proches, peut-être, ne sont pas forcément les personnes qui vont le plus nous aider à reconnaître notre valeur, en tout cas notre valeur financière. Ça peut arriver d'avoir des profs, des amis qui vont vous dire et qui vont absolument vouloir vous payer, voire même vous payer plus. Il peut arriver, au contraire, que des personnes profitent de votre statut de professeur pour se dire « Eh ben, c'est l'occasion, en fait, je l'aide, mais c'est l'occasion pour moi aussi » et qui, au fur et à mesure des semaines, voient plus l'occasion que l'aide. Mmh. Vraiment, attention à ça, parce que ça devient une dérive. Et ensuite, Enfin, voilà, c'est toujours un peu tricky, je veux dire, de donner des cours à sa famille, de donner des cours à des amis. Si vous donnez des cours à des amis ou à votre famille et que vous souhaitez que ce soit gratuit, quelle que soit la gratuité, il faut que ça vienne de vous. Il ne faut jamais que ce soit imposé par quelqu'un en face. Première chose. Et ensuite, oui, le risque quand on se lance et qu'on a peur, c'est d'aller mettre des prix qui sont tout pourris, d'aller mettre des prix qui sont en dessous le marché. Non, mais je te vois rire, mais c'est la réalité, en fait. C'est qu'on peut avoir des prix tout pourris.
Bradé.
Oui, bradé. Et puis, aller dans des salles toutes pourries aussi. Ouais. Une anecdote, un de mes premiers cours que j'avais trouvé, c'était un cours où j'avais commencé au mois d'octobre, je crois, et en décembre, il n'y avait toujours pas de chauffage. Donc, je faisais des cours, il faisait 15 degrés dans la salle. Et j'ai trouvé ça normal pendant 2-3 mois, jusqu'au jour où je me suis dit « Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas donner cours dans ces conditions-là, ça ne respecte ni mon yoga, ni ce que je suis. Et je ne peux pas, et j'ai coupé court à ça, et ça m'a aussi ouvert à mettre en place, en tout cas, une relation différente et à peut-être... dire, bah voilà, moi, pour 30 euros, je ne peux pas faire ce créneau, ça n'est pas possible. On travaille autrement. Voilà. Et c'est important d'aller voir les on va dire, pas les créneaux, mais les tarifs qui sont en place dans sa région et de pas forcément se coller au tarif le plus bas. De se coller peut-être à un tarif qui est milieu de gamme, parce que ce n'est pas parce qu'on débute qu'on n'a pas de valeur, encore une fois. Ce n'est pas parce qu'on débute qu'on doit être moins payé que quelqu'un qui est là depuis un an, qui a plus de followers aussi, j'ai vu ça dans certains studios. Il y a des studios qui imposent un certain tarif en fonction du nombre de personnes qui nous suivent sur Instagram. Ne vous laissez pas faire par ça.
C'est clair.
C'est terrible. Oui.
Et du coup, c'est curieux de pouvoir retrouver ça quand même, en fait, dans l'esprit, finalement, du yoga et dans l'écosystème du yoga. Donc, effectivement, le conseil, c'est aussi peut-être pas trop regarder tout ça, de pas regarder ses indicateurs, pas trop regarder au début peut-être ce que fait le voisin. Alors, effectivement... s'intéresser aux tarifs pratiqués dans la région, ça c'est une chose, parce qu'il faut de toute façon connaître son marché. Mais peut-être aussi se mettre un peu quelques œillères justement pour pas nourrir ce fameux syndrome de l'imposteur, ce syndrome du j'ai moins de followers donc je mérite moins donc j'ai moins de valeur. C'est peut-être qu'au début. Il faut pas faire. L'écosystème du yoga n'est pas que dans la bienveillance pour tout le monde, quoi. Hein ?
Ça, alors là-dessus, je peux te dire que j'ai quelques expériences, effectivement. Même dans le podcast Parole de Yogi, il y a cette expérience de Caroline qui a un peu plus de poids que d'autres personnes et qui a été refusée dans des studios de yoga, qui a pris des remarques en tant que prof, hein, parce qu'elle ne faisait pas, elle ne correspondait pas à l'image type. De la prof de yoga selon le directeur du studio. Donc, en fait, il est possible que vous vous trouviez face à des gens qui sont là pour faire autre chose que du yoga, qui sont là pour faire de l'argent, clairement. Là encore, c'est une question d'alignement. À vous de voir si vous voulez travailler avec ces gens-là, si ça vous va ou si ça ne vous va pas. Et puis, pour l'idée de se mettre des œillères, je pense au début, c'est nécessaire. On va tous passer par cette période-là. Et puis, au fur et à mesure, comme on va apprendre à faire avec cette voie de l'ego et faire monter, au contraire, la voie de la confiance, en fait, on va apprendre à désamorcer certaines pensées que l'on a par rapport aux autres et se dire, au lieu de dire, oh, bah, tiens, elle a tant de followers, j'aimerais trop, comment elle a fait, nanana, c'est horrible. En fait, au lieu d'être avec cette voie de jalousie que l'on peut avoir, être plus dans l'admiration et du coup se dire, attends, mais si elle l'a fait, moi, je peux le faire. Il n'y a aucune raison, je peux apprendre, je peux y aller. C'est possible pour moi aussi. Et ça, ce sont des pensées à nourrir et c'est sur le long terme. Bien sûr, ce n'est jamais un déclic, une transformation tout de suite. C'est plein de petites transformations qui donnent lieu à un grand déclic ensuite.
Ouais, bien sûr. Super, c'est hyper intéressant. Et justement, pour en revenir un petit peu au sujet des studios, parce que j'ai aussi souvent la question comment démarcher un studio, comment me vendre auprès d'un studio. Et du coup, j'irai même plus loin grâce à ton expérience. Et tu viens déjà de nous en dire d'ailleurs quelques mots, c'est comment ne pas accepter aussi finalement n'importe quoi auprès d'un studio. Mais voilà, personne qui aimerait en tout cas enseigner en studio, démarcher des studios, est-ce que tu as des conseils à donner au-delà de celui en tout cas de ne pas accepter n'importe quoi ou en tout cas de savoir ce qu'on veut et avec quoi on est aligné? Est-ce que tu as d'autres conseils à donner? On me pose aussi parfois la question, par exemple, est-ce qu'il faut faire un CV? Enfin, comment se faire connaître près des studios? Voilà. Est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus?
Alors, se faire connaître auprès des studios, le meilleur conseil, et qui est un conseil que j'ai mis du temps à mettre en place moi-même, c'est de pousser la porte du studio, c'est d'aller rencontrer les gens qui y travaillent, d'aller déposer peut-être... En cas de remplacement, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, au départ, ne vous connaissent pas. Vous allez vous présenter, vous pouvez rapporter le support qui vous met en confiance. C'est toujours pareil. Ça peut être une carte de visite, ça peut être un CV. Moi, je l'ai déjà fait avec un CV. On a juste regardé mon CV en me disant qu'il était très joli. Donc, bon, j'avoue que ça n'avait pas apporté grand-chose, mais ça m'avait aidé de venir avec un support pour montrer mon parcours et mes compétences. Et puis ensuite, on m'a rappelé. Et en fait, les meilleurs moyens d'avoir des opportunités, c'est de les créer, en fait. Et c'est d'y aller, c'est de rencontrer les gens. Et puis, de dire, voilà, si jamais vous avez besoin d'un nouveau créneau, si jamais vous avez de la difficulté à trouver un remplaçant, je suis disponible. Et c'est une démarche qui donne confiance à la personne en face de vous. Parce qu'elle sait que vous êtes capable d'oser, que vous avez suffisamment confiance en vous pour faire face à quelqu'un. Donc, si vous avez confiance en vous pour faire face aux responsables du studio, vous aurez confiance en vous pour faire face aux élèves. C'est un message ultra valorisant, en fait, de le faire. Et même pour vous, vous allez en ressortir en vous disant « Waouh, j'ai osé, maintenant, il n'y a plus rien qui me fait peur. » Donc, je dirais que c'est ça.
Une démarche proactive par rapport à ça, quoi.
Oui, et essayez d'être dans cette démarche et puis ensuite, regardez les annonces sur Internet, sur les groupes Facebook aussi, il y en a beaucoup qui tournent pour le remplacement. Se faire un réseau de copines profs qui peut-être auront besoin aussi d'être remplacées à certains moments. Quand je vous dis se faire un réseau, c'est pas juste aller liker sur Instagram, etc. Hein. C'est vraiment créer des amitiés. On en a besoin aussi dans ce métier pour ne pas se sentir seul. Donc, allez créer du lien avec les gens. Soyez vrai, soyez authentique et forcément, on vous appellera.
Très juste. Mais effectivement, il faut savoir aussi parfois créer ses opportunités et quelque part sortir un petit peu de sa zone de confort. Et c'est ce qui permet aussi du coup de travailler jour après jour, quoi qu'il en soit, cette confiance. Si tu devais recommencer aujourd'hui from scratch dans la période actuelle avec la digitalisation aussi du yoga qu'on connaît de plus en plus, comment tu procéderais du coup et qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer? Est-ce que tu lui recommanderais d'être présent à la fois de faire du présentiel et du online? Comment les conseils tu donnerais?
Alors, pour mon cas particulier, je sais que peut-être que j'aurais commencé plutôt à me montrer sur les réseaux, mais à vraiment me montrer. Voilà, j'avais peur de montrer mes postures, j'avais peur de plein de choses. Donc, effectivement, dans mon cas particulier, je me montrerais davantage. J'aurais pas commencé le podcast tout de suite parce que je pense que le podcast, je l'ai commencé 2 ans après mon activité et j'avais eu besoin de traverser pas mal de choses pour ressentir cette solitude de prof pour pouvoir ensuite dire « Ok, je vais donner la parole à d'autres profs et puis je vais rencontrer du monde comme ça. » mais voilà, oui, pour mon cas particulier, je me montrerai un peu plus sur Internet. J'irai beaucoup plus directement voir les studios qui sont en difficulté, certes, c'est vrai, notamment avec tout ce qui s'est passé avec le Covid-19, mais qui, du coup, recherchent quand même des solutions, recherchent quand même potentiellement des profs pour faire des plateformes en ligne, etc. Donc, j'oserais beaucoup plus que ce que j'ai fait à l'époque. Mmh. Maintenant, effectivement, si je n'avais pas fait, entre guillemets, toutes ces erreurs, si je n'avais pas eu tout ce parcours, le programme ne serait pas né non plus. Donc, c'est vrai que c'est un peu, voilà, c'est un peu particulier. Et puis, si je dois conseiller à quelqu'un, en fait, j'ai du mal à faire un conseil global parce que, pour moi, c'est extrêmement personnel. Si on ne se sent pas à l'aise avec les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Parce que justement, on va se cacher, on va avoir peur, on va pas être régulier, on va pas créer du lien avec les autres, ça n'aura pas d'intérêt. Donc, en fait, voilà, mon conseil est le même qu'au tout départ. Si on doit se lancer, les premières choses à faire, c'est d'être sûr de ce qu'on veut, d'être sûr de son message, de ce qu'on veut porter, et ensuite de mettre en place les voies exactement. Qui sont les nôtres, en fait. Mm-hmm. C'est vrai que j'ai du mal à... Parce qu'en fait, je reçois aussi beaucoup de messages de personnes qui me disent « Je suis pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Est-ce que c'est essentiel ?» Non, c'est pas essentiel. Surtout si t'es pas à l'aise. Voilà. Donc, voilà, j'ai aussi envie de rassurer les gens dans ce sens-là. Après, c'est sûr que tes auditeurs, ce sont des gens qui s'intéressent énormément au digital, qui veulent être là-dedans. Et oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de contenu podcast, il y a de plus en plus de programmes. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre place. Ça ne veut pas dire que des gens n'attendent pas que vous mettiez en place quelque chose pour eux. En fait, si on ne fait pas cette action-là, on prive des futurs élèves, on prive potentiellement des professeurs, on prive des gens de notre savoir, de notre voix unique, de notre manière de faire, de notre manière d'amener les choses. Donc, je ne sais plus quelle était la question de départ, mais l'idée, c'est encore une fois d'oser.
Non, mais ça rejoint bien quand même. Enfin, ce message-là est super important parce que je pense qu'effectivement, c'est la base. C'est, et comme je le dis aussi régulièrement dans les podcasts, c'est chacun a son propre message, sa propre façon d'enseigner son yoga. Et donc, voilà, la voix de chacun est unique et le monde a besoin de chacun, en fait. Donc, même si aujourd'hui, on a le sentiment... peut-être que le marché est saturé, que le marché est très concurrentiel, ok, mais je pense que voilà, effectivement il y a de la place pour tout le monde parce qu'on a chacun un message différent et unique, une voix différente et unique à amener, et ça je trouve que c'est bien et c'est ce que tu viens de mettre en valeur. Donc je trouve que c'est très pertinent et rassurant de se dire qu'à un moment donné tout le monde a sa place, en fait.
C'est difficile de le trouver, de le mettre en place, mais du jour où on l'a compris, ça va beaucoup mieux.
Ouais. On voit que tu es passé par là et qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.
C'est ça, exactement.
Alors justement, toi aujourd'hui, Laura, en termes de communication, si je peux utiliser le mot de visibilité, de stratégie, peut-être de contenu ou pour apporter aussi de la valeur ajoutée puis ton expertise à ton audience, qu'est-ce que tu utilises, où est-ce que tu es présente, qu'est-ce que tu mets en place, qu'est-ce que tu fais régulièrement?
Alors, je suis présente via le podcast Parole de Yogi, qui à la base était un élan du cœur, qui a jamais été en fait pour moi un moyen de me montrer, en fait. C'est pour ça que finalement c'est ça ce qui se passe, mais au départ c'était juste voilà un élan du cœur, j'avais envie d'essayer, de voir ce que ça faisait. Donc voilà, on peut me retrouver du coup tous les samedis sur Parole de Yogi. Ensuite il y a Instagram, je suis pas aussi régulière, mais voilà, j'ai mes phases. C'est aussi un endroit où je vais distiller des états d'esprit, des humeurs, des conseils, des choses que je traverse aussi. C'est, voilà. Mais les deux forment quelque chose de, pour moi, de très intime. Je dirais pas que les deux, c'est des journaux intimes, hein, j'en suis pas là. Mais voilà, c'est une manière de créer du lien encore pour moi, Instagram, avec les gens qui me suivent sur le podcast. Et puis, il y a la chaîne YouTube qui est un endroit où je peux exprimer plein de choses. En fait, j'exprime tout ce que je ne mets pas dans le podcast, concrètement. Donc, ouais. Des relaxations, des méditations. Il y a d'autres interviews, mais sous forme de vidéo, parce que c'est un média que j'ai découvert et qui me plaît aussi. J'ai trouvé que c'était chouette, donc j'apporte de l'information aussi. Mais il y a des inspirations, il y a des interviews, il y a plein de choses en fait sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je continue à alimenter, mais ce qui reste là où je suis le plus présente, c'est le podcast, parce que c'est vraiment là où je suis le plus heureuse en fait, concrètement.
Un média de cœur, quoi.
Exactement. Et puis après, bah, y a le site internet qui regroupe tout et qui regroupe aussi les contenus, on va dire, autres, c'est-à-dire notamment le programme, là, sera sur mon site internet.
Oui, donc parce que au-delà, on va rentrer un petit peu dans les détails de ce programme, au-delà aujourd'hui d'être toi-même donc professeur de yoga, de donner des cours, tu es un petit peu à un tournant où tu as envie aussi, comme je le disais donc en préambule, bah, d'accompagner ces jeunes professeurs de yoga, de faire un petit peu du mentoring parce que bah, t'es passé par là et tu sais ce dont ils peuvent avoir besoin, comment susciter aussi chez eux certaines réflexions. D'où la création, c'est ça, de ce programme. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, du coup ?
Alors, ce programme, je l'ai en tête depuis vraiment longtemps, je dirais au moins un an et demi. Il a eu dans ma tête plusieurs formes, plusieurs versions. Et puis, finalement, j'ai trouvé celle qui me parlait, celle par laquelle je peux m'exprimer le mieux, c'est-à-dire que maintenant, c'est 16 audios, parce que forcément, avec le podcast, je suis hyper à l'aise sur l'audio. Donc, 16 audios qui répondent aux grandes questions qu'on peut se poser. Il y en a d'ailleurs dans cette interview qui sont clairement quasiment le titre des épisodes en question. Donc voilà, il y aura ça. Il y aura la possibilité aussi de se faire accompagner, donc d'avoir une séance en privé avec moi, non pas pour que je te dicte ce que tu dois faire, hein, mais pour dire, en tout cas pour accompagner, c'est vraiment le mot, c'est accompagner, guider, montrer la voie, parce que souvent quand on est seul, on voit même plus, disons, les pensées qui nous bloquent, l'état d'esprit dans lequel on est, on ne le voit même plus. Et du coup, on a besoin de quelqu'un pour poser la lumière sur quelque chose qui est encore à guérir, qui est à ouvrir. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est d'aller pointer ça et puis de trouver les solutions adaptées pour la personne grâce à l'expérience que j'ai pu acquérir. Au-delà de tout ça, il y a aussi un groupe Facebook pour les gens qui s'inscrivent à la formation, qu'ils prennent l'accompagnement ou non. D'ailleurs, tout le monde y a droit. L'idée, c'est d'éviter cette solitude, c'est de pouvoir parler ensemble de tout ça, de tout ce qui est abordé dans le programme, de continuer à en parler. J'ai pour projet de faire des petites vidéos de temps en temps si je vois qu'il y a un thème dans la formation qui a besoin d'être exploré un peu plus ou qu'il y a des questions encore qui restent, de continuer à mettre du contenu là-dessus. Voilà, et puis il y aura des contenus bonus, bien sûr, mais bon, après, les gens retrouveront tout de toute façon sur mon site internet, mais voilà.
Bien évidemment, je mettrai toutes les informations dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse retrouver à la fois sur tes réseaux, tes différentes plateformes et retrouver ton programme. Est-ce que pour la partie un peu plus enseignement, tu aurais des anecdotes croustillantes sur, par exemple, tes premiers cours ou qu'est-ce qui peut se passer lors de premiers cours, qu'est-ce qui peut nous arriver ou comment peut-être anticiper certaines choses pour réussir son premier cours, surtout, je pense, à un cours en présentiel, en studio ou avec une dizaine d'élèves face à soi quand on démarre. Est-ce que tu as des anecdotes de ton côté et peut-être des petits tips à nous donner?
Je me souviens d'un de mes premiers cours dans une salle de sport. Donc, ce n'était pas un cours en studio, c'était une salle de sport. C'était bondé. Et il faut savoir que je suis petite. Je fais 1m53. Et donc, du coup, Et donc, du coup, c'était un peu compliqué au départ à la fois de laisser ma voix porter, parce que d'un seul coup, on se retrouve, il devait y avoir plus de 20 élèves, c'était n'importe quoi, il y avait beaucoup trop de monde. Ouais. C'est le problème des salles de sport, ouais. C'est que voilà, il n'y a pas de limite, donc voilà, il y avait beaucoup trop de monde à ce cours. Et il y avait une petite estrade, mais même avec l'estrade, je pense que les gens ne me voyaient pas. Donc, voilà, c'est ça. Les premières choses, je pense, pour s'assurer que ça se passe bien, un de mes premiers conseils, c'est ça, c'est être sûr d'être vu et d'être bien entendu. Donc, quitte à faire changer les 28 personnes de formation dans la salle, à vous mettre au milieu et leur demander de changer, etc. Voilà, et c'est ce que j'ai fait par la suite. D'ailleurs, j'ai changé d'installation dans la salle pour être bien vu par tout le monde. Mais voilà, c'est un des premiers trucs qui a pu m'arriver que je trouve rigolo, c'est que j'avais pas pensé qu'en fait on pouvait pas forcément bien me voir ou bien m'entendre.
Ouais, c'est vrai.
Donc voilà. Après, l'autre conseil que je trouve super important, c'est attendez un ou deux jours pour faire l'état des lieux de votre cours. C'est-à-dire que pendant votre cours, vous allez avoir des pensées, mon Dieu, j'ai oublié telle posture, etc. Les élèves de 1 ne vont pas réagir, ils ne vont même pas s'en rendre compte. Et ensuite, vous, la seule chose que vous avez à faire à la fin de votre premier cours, c'est de vous féliciter, c'est d'être heureux, c'est d'aller boire un verre avec vos amis, c'est de le célébrer. Voilà, c'est juste d'être content parce que ça y est, c'est fait, votre premier cours est donné. Et faites-le, voilà, peut-être régulièrement au départ parce qu'il faut célébrer ça, il faut être en joie pour ce qu'on fait. Et après coup, vous ferez un bilan de ce que vous voulez travailler pour améliorer la situation. Mais ne rentrez pas tout de suite dans le mental. Restez dans cette joie de faire ce que vous voulez faire, d'avoir passé le pas, d'avoir réussi. Il y a plusieurs joies dans le métier de prof de yoga. C'est le premier, c'est la première formation. Ça y est, elle est faite, on est prêt. Et puis l'autre joie, c'est le premier cours. Et puis après, il y a d'autres joies qui arrivent, mais je vous laisse découvrir.
Donc, laissez effectivement faire son premier feedback à froid, quoi, en fait.
Exactement.
Hein, pour ne pas être non plus dans l'émotion, en fait.
Hein, tout à
tout
fait.
Simplement. Comment on peut optimiser la préparation de ces cours? Parce que, in fine, préparer un cours d'une heure, voire même d'une heure et demie, comment s'organiser pour être efficace, en fait, à la fois dans la création de ces cours, du coup? Comment j'optimise cette partie préparation de cours?
Alors, pour ma part, au départ, je me souviens que je mettais vraiment beaucoup de temps. Je travaillais avec mes cahiers, etc., et j'oubliais la partie fun, la partie personnelle et la partie plaisir. Et en fait, c'est juste ça. C'est quand on prépare ses cours, au départ, c'est normal d'avoir envie de les bosser à fond. Et c'est vraiment, ça rassure, ça fait du bien. Donc, il n'y a pas de souci. Mais juste pour être sûr de les apprécier et de ne pas les faire en mode robot, c'est d'y mettre vraiment votre petite touche. Peut-être sur une transition, peut-être sur un enchaînement de postures qui n'est pas habituel dans la formation, dans ce qu'on vous a transmis, mais vous avez envie de le tester comme ça. C'est peut-être de la travailler sur son tapis et de se dire « Oh, mais en fait, je mettrais plutôt ça à la place. » Voilà, c'est de vous approprier en fait votre création de cours et de la faire par rapport à vous, par rapport à votre inspiration du moment, par rapport à ce qui vous fait plaisir. Parce que si ça vous fait plaisir, vous allez pouvoir le transmettre vachement plus efficacement que si vous trouvez que c'est chiant de travailler sur les ouvertures de hanches, quoi. Donc, à un moment donné, il n'y a pas le choix. Il faut que ça soit plaisant, sans s'enfermer dans uniquement les choses qui vous font plaisir. Mais il faut qu'il y ait cette touche-là au moins.
Ok, super. Et du coup, tout à l'heure, on parlait de la confiance, de développer sa confiance, et on disait que de toute façon, dans notre parcours, et parce qu'en plus, on est des entrepreneurs, des yogipreneurs, on aura forcément des hauts et des bas. Et justement, est-ce qu'on peut aussi traverser par moment le fait de perdre un peu confiance ou de connaître cette impermanence des choses, on peut manquer d'inspiration, ou alors on a l'impression du coup au bout d'un moment que nos cours c'est toujours la même chose, que finalement on n'apporte rien de nouveau, et on vient finalement à reperdre confiance en fait à un moment donné dans son enseignement, parce que peut-être qu'on n'arrive pas à se réinventer. Alors est-ce que c'est nécessaire de se réinventer? Comment rester inspiré? Est-ce que c'est des choses par lesquelles tu es passé et sur lesquelles tu peux donner des tips?
Alors, oui, effectivement, c'est des choses que j'ai connues et même plusieurs fois. Et en fait, Alors, deux choses. Je vais d'abord répondre sur l'inspiration en elle-même. L'inspiration, elle se trouve quand on arrête d'être uniquement professeur de yoga et quand on s'autorise à avoir tous les aspects de sa vie qui sont équilibrés, c'est-à-dire l'aspect personnel, l'aspect pro, effectivement, mais aussi l'aspect activité, plaisir, ouverture. Voilà, que quand vous allez voir des films, quand vous allez à des expositions, quand vous allez en fait faire des choses qui vous font plaisir, ça peut être une autre activité sportive, mais quand vous continuez à vous ouvrir à la vie, eh bien, l'inspiration, elle est là. Parce que vous ne tournez pas en rond avec le yoga. Quand vous continuez à lire, à vous informer, mais même pas forcément dans les sujets du yoga. Et c'est là que c'est le plus intéressant parce que vous allez pouvoir faire des parallèles entre votre pratique et la vie en général. Et ça, les gens adorent. Et ensuite, tu parlais de cette sensation qu'on tourne en rond avec ses cours, qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Ça m'est arrivé, j'en ai d'ailleurs beaucoup parlé dans le podcast à une époque, et avec l'expérience, je ne peux que vous dire que c'est ultra bénéfique d'en arriver là. Parce que ça veut dire que dans l'enseignement, dans notre manière d'enseigner, on est arrivé à un cap et qu'il va falloir le dépasser. Qu'on a apporté tout un tas de choses à nos élèves et que nous-mêmes, on commence à se dire, en fait, là, ce que j'apporte, c'est un peu superficiel, il faut que j'aille plus en profondeur. Donc, ça veut dire que le travail sur vous est en train à fonctionner et que vous pouvez aller encore plus loin. En fait, c'est ultra bénéfique. Et cette période-là, il ne faut pas essayer de la remplir à tout prix. Il faut essayer de vous laisser de l'espace pour que l'inspiration revienne. Donc, là encore, faire des choses qui vous font plaisir, aller à des expositions qui vous font plaisir, etc. Et comprendre que vous allez trouver, c'est évident, que vous allez passer à autre chose. Mais en fait, dans votre enseignement, vous avez franchi déjà un cap. Vous êtes déjà comme si, en fait, on travaillait en archéologie et qu'en fait, vous aviez déjà travaillé sur la première strate et vous allez travailler sur la couche la plus profonde en dessous. Et puis, de plus en plus profondément en vous-même et pour vos élèves. Et c'est ça, en fait. L'enseignement, ça n'est pas figé. La vie n'est pas figée. Tu parlais d'impermanence. Et ben, c'est exactement la même chose. Vous allez changer au fur et à mesure que vous allez répéter certaines choses à vos élèves. Ça va s'ancrer en vous. Et vous allez comprendre que ça, c'était bien un moment. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut aller plus loin ou peut-être en arrière. Ou voilà. Il faut explorer dans une autre direction.
Donc finalement, ressentir cette sensation peut-être pas forcément très agréable, c'est un signal positif en fait dans son parcours, quoi.
Tout à fait.
Super. Eh bien, écoute, je pense que on a apporté, enfin que tu as apporté d'ailleurs plein de pépites à nos jeunes professeurs et pas que nos jeunes professeurs d'ailleurs. Je pense qu'il est toujours bon d'entendre ces choses-là, de revenir aux fondamentaux et puis vraiment on sent que c'est la voix du cœur et l'expérience qui parle. Donc c'est passionnant. Et du coup, pour ceux qui te connaissent un petit peu moins, Laura, j'avais envie de te poser 10 petites questions que je pose en fin d'interview pour te connaître un peu mieux sur tout ce qui peut justement aussi toi t'inspirer dans la vie, dans ton parcours de yoga. Alors, est-ce que tu es prête à jouer le jeu?
Oui, je joue. C'est parti.
Joue. Alors, c'est parti. Quels sont les maîtres ou les professeurs qui t'inspirent dans le yoga?
Alors, j'en citerai une, en tout cas, qui a été une rencontre fondamentale pour moi, au-delà de mes profs initiaux, c'est Cécile Doherty-Bigara. Incroyable personne, incroyablement ancrée, humble, authentique. J'adore ce qu'elle dégage, j'adore son énergie. Et voilà, j'aime cette femme. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre?
Mais c'est parfait, ça répond à la question. Ce que je propose à nos auditeurs, c'est qu'on indiquera évidemment toutes les références que tu vas nous donner dans les notes podcast. Comme ça, ils pourront aussi peut-être retrouver ces personnes peut-être sur les réseaux ou ailleurs, mais voilà, on leur mentionnera tout ça. Est-ce qu'il y a un compte Insta ou YouTube que tu préfères, qui t'inspire en particulier dans le milieu du yoga?
Alors, j'ai fait un post il n'y a pas très longtemps où j'en mets 5, donc j'avoue que là, c'est dur de choisir.
Eh bien, on peut partir pour 5.
On peut partir pour 5. Bon, alors du coup, il y avait Cécile dedans. Il y a le compte de Cécile Doherty-Bigara. Il y avait le compte d'une jeune femme qui s'appelle Maude, qui a son propre studio et que j'avais interviewé, pareil, et ça a été un coup de cœur. Il y a, que je ne me trompe pas, Yogargo, donc qui est le compte de Sonia et qui est pour moi une magicienne, voilà, qui est une yogi magicienne. Elle a un univers qui est magnifique. J'espère ne pas oublier personne. Il y a Viananda qui est le compte de Aude qui vit près de chez moi. Pareil, une belle rencontre, une belle âme qui est aussi naturopathe, donc qui apporte du contenu aussi en ce sens. Il y a... Ça y est, je commence à les perdre. Il y a la belle Valentine, yoga avec Valentine, qui ne vit pas en France, qui vit au Québec, que j'adore, qui a une belle énergie aussi, enfin une belle voix. Si vous voulez écouter, elle n'a pas des podcasts, mais elle a des relaxations. Elle a une voix extraordinaire. Et puis, dernièrement, il y a une jeune femme que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, qui a débuté il y a moins d'un an, hein, il me semble. C'est Anna Yoga FR. Donc Anaïs, elle met énormément de contenu. Elle met des contenus sur Instagram, en Instagram Story ou pour aller voir ensuite derrière des cours, des séances. Elle fait des cours en ligne. Elle a des super belles photos. Enfin, pour moi, c'est l'exemple d'un compte Instagram qui est beau, mais qui est aussi avec, qui apporte aussi plein de valeurs. Voilà.
Oui, ce qui est quand même.
C'est quand même important.
Voilà, c'est ça. Ça me va bien qu'on conclue ça sur l'idée des comptes Instagram. Ok, super. Eh bien, on mettra tout ça dans les notes. Si tu devais choisir, pratiquer ou enseigner ?
C'est difficile, mais je dirais enseigner parce que j'aime enseigner tout. En fait, je pense que je suis née pour ça, pour être prof quelque part. Donc, enseigner.
Est-ce que tu as un livre préféré ou une Bible, enfin voilà, quelque chose auquel tu reviens tout le temps? Alors ça peut être en dehors d'un livre de yoga, hein, bien sûr.
Mon livre, c'est un livre plus de orienté développement personnel, c'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir.
Ah, j'adore.
Que j'ai énormément lu aux élèves aussi. Enfin, c'était, il m'a accompagnée pendant une année. On va dire quasiment une année d'enseignement, jusqu'à ce que je sente que j'en avais plus besoin et que je pouvais exprimer les choses par ma propre voix. Mais il a été ultra formateur. J'ai adoré ce livre.
Excellent, je le recommande aussi. Il m'avait été d'ailleurs moi-même recommandé par mon ami d'Apiga Studio. Et vraiment, c'est un livre fabuleux. Ta posture préférée, Laura ?
En yin yoga, c'est pas du tout une posture impressionnante, c'est ça qui est marrant, mais ça me représente bien. C'est la posture de l'enfant, mais sur le bolster, en fait. En yin, et tu restes 5-7 minutes là-dessus. C'est fabuleux. Ça soigne tous les maux. Peut-être en hatha, badakodasana, en hatha. Badakodasana, c'est une posture que j'adore. Ou pavishta konasana. Donc, des belles postures où on vient... ouvrir et tirer au niveau des adducteurs, ouvrir les hanches, etc.
Ok. Est-ce que tu as un rituel ou une routine dans ton quotidien qui t'apporte énormément ou qui peut-être même t'a fait évoluer, changer, t'a apporté des bienfaits, que ce soit en alimentation, en sport, en méditation, dans quelques domaines que ce soit?
Alors, j'ai des petites choses que je ressors, voilà, qui arrivent dans ma vie régulièrement. Je dirais pas que c'est des rituels, quoique peut-être. Il y a des petites choses comme ça. Ça va te paraître tout bête, mais allumer une bougie en faisant une prière. Je suis quelqu'un qui a la foi, qui croit en l'univers notamment. Donc voilà, formuler des prières, des choses comme ça, ça m'aide beaucoup. Tirer mes oracles régulièrement, pas forcément tous les jours, mais régulièrement. Et puis, moi, j'ai un petit miracle qui est arrivé dans ma vie qui s'appelle Berlioz. Et donc, depuis quelques jours, mon nouveau rituel, c'est séance de ronron thérapie avec mon chaton Berlioz. Voilà, c'est les petits rituels du moment.
Je crois qu'il y a beaucoup de ronron thérapie chez les profs de yoga. Hein. J'ai cru remarquer.
C'est fabuleux.
Et tu parlais des oracles. Est-ce que tu en as un en particulier à nous recommander ?
J'en ai un que je trouve... ultra accessible pour tout le monde, qui m'est déjà arrivé d'ailleurs de présenter aux élèves, parce que c'est celui qui va t'envoyer un petit message dont tu as besoin, qui va te rassurer, te conforter. Il est tout petit, c'est le petit oracle des anges. Il est disponible vraiment partout et facilement. Ouais. Je crois que c'est Tony Carmine Salerno qui l'a écrit. Donc, il est vraiment génial. Et ensuite, j'ai L'Oracle sauvage de Kuan Yin, qui est d'un auteur que j'adore, mais que là, je n'ai plus en tête, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus consistant, en fait, en termes de contenu, mais qui il touche toujours juste. Il est fabuleux. Voilà.
Ok, super. Ben, merci beaucoup, parce que c'est vrai que ce n'est pas tout évident de s'y retrouver. Donc, on notera ces recommandations. Ok. Dans l'enseignement, qu'est-ce qui est difficile ?
De ne pas me projeter sur les élèves. Enfin, ce n'est pas très clair, mais de ne pas interpréter ce que font les élèves, en fait. C'est-à-dire ne pas venir au cours, voilà, ce genre de choses, ou faire la tête, ou faire une grimace, etc. Ne pas interpréter ces signaux-là qui ne concernent que eux, en fait.
Oui, qui ne veulent pas forcément dire quelque chose sur ton cours,
sur moi.
Ton enseignement, ta manière, exactement. Oui, c'est vrai. Et dans l'enseignement, ce que tu aimes le plus ?
C'est la définition de l'enseignement, mais c'est cette notion de partage. Et quand on est en présentiel, pas de cours en ligne, c'est vraiment ce truc de ressentir l'énergie de la salle. C'est ça que j'aime, c'est d'être dans le moment, de ressentir ce qui se passe, de voir que j'ai réussi à emmener les gens dans cet univers du yoga, dans le voyage que je leur propose. Et quand on a cette sensation-là, on est porté et le cours, il passe à une vitesse, c'est extraordinaire.
Comment tu définis le yoga ?
Alors, le yoga, c'est un moyen du corps, on va dire, c'est un moyen d'une exploration par le corps, du mental, des émotions, grâce à notre respiration, grâce au mouvement. Voilà, je dirais un truc dans cet état d'esprit-là, un peu comme ça.
Super, c'est vrai que c'est pas toujours... c'est intéressant en tout cas de découvrir la définition de chacun, parce que justement, chacun vit et a son yoga, donc j'aime bien cette question pour ça. Mmh. Et pour terminer, Laura, la série de questions, est-ce que tu as une citation qui t'inspire ou un mantra, qui est ton mantra de prédilection ?
Ah oui, j'en ai un depuis longtemps. C'est « Sois le changement que tu veux voir dans le monde » de Gandhi. Ça a transformé tellement de choses que, voilà, on va dire que c'est celui-là pour la version courte. J'en ai un plus long qui est un texte de Marianne Williamson qui l'a écrit, qui a été repris ensuite par Mandela. Et le début, vous allez taper sur Internet, c'est « Notre peur la plus profonde ». Voilà, et celui-là aussi, il transforme énormément de choses.
Super. Oui, soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est un mantra qui me parle énormément aussi. Et connaissant aussi ton parcours dont j'ai parlé en préambule, ça a tout son sens. écoute, je te remercie vraiment mille fois, Laura. On va clôturer cette conversation. Je pense que tu nous as livré vraiment des pépites et surtout aussi, on sent, enfin, donc une expérience forcément et du bon sens en fait dans cette aventure qui est la transmission, l'enseignement, le partage du yoga. Une voix du cœur en fait pour avancer sur ce chemin. Je trouve que c'est hyper rassurant et ça donne vraiment envie. Donc je suis certaine que nos auditeurs auditrices vont être comblés par cette interview et bien évidemment. Donc je vais mettre tous les liens pour te retrouver et pour retrouver ton programme pour celles et ceux qui auront envie d'être accompagnés dans leur premier pas. Donc je mettrai tout ça en référence du podcast. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose pour terminer, Laura ?
Bah oui, j'aimerais te remercier quand même de m'avoir donné l'opportunité de parler de tout ça, de cette expérience que j'ai, du programme, etc. On a eu le temps de discuter un petit peu en amont et on discutait toutes les deux de ce qu'était la concurrence et du fait que la concurrence en soi, c'était un mode de pensée très négatif et qu'on pouvait ensemble s'entraider, donner de la valeur aux gens, trouver des points communs pour avancer ensemble. Et voilà, je trouve que ce podcast, c'est un exemple parfait de ça. Donc, je voulais te remercier pour m'aider à l'illustrer. parce que effectivement, j'en parle dans le programme, mais voilà, je voulais pouvoir l'illustrer, j'ai pu le faire grâce à toi, et ça montre aussi la qualité du travail que tu vas proposer aux gens et l'ouverture de cœur que tu as. Voilà. Donc, je voulais te remercier pour ça.
Bah, merci mille fois. Du coup, je suis très émue. Je ne connaissais pas la conclusion. Merci mille fois, Laura. Et on te retrouve très vite sur tes plateformes et dans ton programme. Mille merci. Et
merci à toi. À bientôt.
Voilà, Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux, sur vos différentes plateformes pour m'aider à faire connaître Yogi Biz Podcast et lui offrir de la visibilité. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous retrouverez dans les notes de cet épisode toutes les informations pour retrouver Laura et son programme pour vous guider en toute confiance dans vos premiers pas de professeur de yoga. Je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute et portez-vous bien.